carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en visite à la demeure de l'académicien Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Victor Hugo vécut de 1832 à 1848 dans un appartement situé au second étage de l'hôtel de Rohan-Guéménée. Cette demeure dévoile les nombreuses facettes de l'académicien tout en révélant ses combats intérieurs. Je vous propose une visite en compagnie de Danielle Molinari, directrice de la maison.
Nous sommes dans les lieux mêmes où Victor Hugo a vécu de 1832 à 1848 et nous sommes précisément dans une salle qui était déjà l'antichambre à l'époque où il y vivait, bien que la configuration de l'appartement à l'époque ne soit pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Alors en fait, Victor Hugo arrive ici, il a 30 ans, il est né en 1802, donc il a 30 ans. Il a déjà connu la bataille d'Hernani, il est le chef de file des romantiques, il a connu le succès d'un grand roman, Notre-Dame de Paris. Donc c'est quelqu'un qui représente quand même l'élite littéraire, intellectuelle de l'époque. Il va recevoir d'ailleurs dans cet appartement, réunir le cénacle romantique. Il s'est rapproché en venant ici de son ami Théophile Gautier, dont on garde le souvenir à côté de l'entrée du musée avec le lycée Théophile Gautier.
Pourriez-vous nous préciser où nous sommes à Paris ?
Alors nous sommes place des Vosges, nous sommes donc au cœur du Marais, sur cette place absolument magnifique, comme vous le voyez, plantée de marronniers, qui a été aménagé au moment de l'aménagement carrément du quartier des Tournelles. Et cette place, lorsque Victor Hugo y vivait, s'appelait la place Royale. C'était un lieu qui était excentré, puisque, si vous voulez, on disait à Hugo, qui jusqu'alors avait surtout vécu vers le quartier latin, qu'il s'expatriait dans le lointain marais, vous voyez, il y avait à l'époque toujours des zones un peu marécageuses. Mais néanmoins, c'était un appartement bourgeois, c'était un hôtel particulier. Donc tous les hôtels ont été construits au XVIIe siècle. Donc nous sommes dans un hôtel particulier du XVIIe qui était, et le nom lui restait, destiné, occupé par la famille de Rohan-Guéménée. Et on a gardé cet intitulé, on dit toujours pour ce musée qu'il est dans l'hôtel de Rohan-Guéménée. Donc, à l'époque où Victor Hugo s'installe, nous sommes au XIXe siècle, et l'immeuble n'est plus occupé par une seule personne, par une seule famille, et a déjà été, je dirais, restructurer un appartement, chaque appartement occupant un étage de l'hôtel. Donc au deuxième étage, dans un appartement de 280 mètres carrés, Victor Hugo s'installe avec sa famille, Adèle Fouché, ses quatre enfants, en location. Il n'a pas acquis cet appartement. Et à l'époque, là, nous sommes dans une pièce, si vous voulez, quadrilatérale, que nous appelons toujours l'antichambre, et les pièces qui suivent ont cette même configuration. Mais du vivant de Victor Hugo, vous pouvez imaginer aisément qu'il y avait un espace cuisine, qu'il y avait un espace pour le bain, pour la toilette, et qu'il y avait donc des couloirs qui permettaient de circuler et de vivre au quotidien, voyez. Donc, la configuration de l'appartement a été modifiée lorsque la ville de Paris, en 1872, est devenu propriétaire de l'hôtel de Rouen-Guéméné. À cette date, évidemment, les locataires qui pouvaient s'y trouver encore sont partis à la fin de leur beau et la ville de Paris a installé des écoles de la ville. Et nous sommes toujours entourés pour une partie d'ailleurs par des espaces scolaires, notamment de la DASCO, les centres de loisirs, le lycée Théophile Gautier qui occupe une aile. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Victor Hugo n'occupait pas la totalité de l'hôtel de Rouen-Guéméné. Il n'occupait qu'un appartement en location où nous sommes à présent, n'est-ce pas?
C'est très important de le rappeler.
Voilà, c'est ça, parce qu'il y a une petite confusion dans la terminologie de ce lieu qui est la maison de Victor Hugo. Quand on dit maison, on pense à un ensemble, vous voyez? Non, ce n'est pas ça. Et en plus, ça ne lui a pas appartenu. Mais ça a été le nom qu'on a donné en 1902, lorsque sous l'impulsion de son ami de toujours, Paul Meurice, l'idée a été donnée à la ville de Paris de fonder, de créer un lieu à la mémoire du grand homme, à la mémoire de l'écrivain. On a dit, bon, ça sera la maison de Victor Hugo. Moi, je trouve, si vous voulez, évidemment, il y a cet espace où il a vécu. Donc, ça confère au lieu son intimité. Il y a, effectivement, je n'aime pas tellement le terme, parce que ça cantonne le lieu dans une orientation qui n'est pas tout à fait la sienne. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a effectivement des souvenirs, il y a des reliques, il y a des éléments de mobilier, il y a des vêtements qui ont appartenu à Léopoldine, il y a l'épée d'académicien de pair de France de Victor Hugo, il y a son habit d'académicien de pair de France. Ces choses-là s'inscrivent dans la catégorie reliques. Mais il faut quand même dire, et on va en parler plus précisément, qu'il y a bien sûr ce lieu du souvenir avec ce que je viens de décrire, mais il y a aussi un fonds musée extrêmement important avec des dessins notamment de Victor Hugo. Nous conservons environ 700 dessins de Victor Hugo. C'est énorme. Nous avons le fonds le plus riche avec celui de la Bibliothèque nationale de France qui, elle, a hérité du legs du poète. Nous avons, la collection que nous avons a été donnée, je dirais aujourd'hui, aux trois quarts par Paul Meurice, qui a donné des dessins, qui a donné du mobilier, qui a donné des manuscrits, qui a donné des estampes, qui a donné des caricatures, qui a donné tout ce qu'il avait conservé et parfois même acquis à l'occasion de la fondation de ce lieu, pour qu'il soit le plus riche possible. Donc, si vous voulez, maison, oui, mais maison musée, je dirais, puisque, vous le savez, nous avons la chance d'avoir au premier étage un espace équivalent à celui de l'appartement, dans lequel nous présentons régulièrement des expositions. Actuellement, nous avons une grande exposition consacrée au grand roman de Victor Hugo, Les Misérables. Et lorsque nous n'avons pas une exposition temporaire, nous présentons ce fonds dont je vous parle. Vous voyez, des dessins, des photographies. Nous avons un nombre très important et très représentatif de photographies de l'atelier de Jersey que Victor Hugo a impulsé pendant son exil à Jersey avec son fils Charles et avec Auguste Vacry qui était le frère du mari de Léopoldine, qui s'était noyé avec elle dans la Seine, quelques mois après la réunion. Alors voilà, c'est un lieu très riche. Donc, la maison, l'appartement n'est plus tout à fait dans sa répartition des espaces comme il l'était du temps de Victor Hugo. Il faut dire aussi que lorsque, après le coup d'État, en 1851, Victor Hugo, dont les idées sont devenues peu à peu des idées républicaines. Et c'est assez amusant d'ailleurs de constater qu'il arrive ici, proche de la famille d'Orléans, royaliste, il habite un appartement très bourgeois sur la place royale, et que ceci ne l'empêche pas d'adhérer peu à peu à l'idéal républicain jusqu'à se poser avec l'autorité qu'on peut lui prêter à Napoléon III, jusqu'à se poser à l'Empire, jusqu'à devoir fuir pour ne pas être emprisonné et fuir, pas pour 15 jours, pour presque 20 ans, Victor Hugo part d'abord en Belgique, puis à Jersey, puis à Guernesey. Je fais une toute petite parenthèse sur Guernesey, parce que nous parlons de cette terminologie qui ici n'est pas tout à fait juste. À Guernesey, elle l'est tout à fait, parce qu'il a acquis une maison. Il a acquis une maison avec un jardin grand, profond, mystérieux, qui lui rappelle sans doute le jardin des Feuillantines. Et cette maison est devenue également la propriété de la ville de Paris. En 1927, les descendants de Victor Hugo, pour le centenaire du romantisme, dont Victor Hugo était le château-fils, l'offrent à la ville de Paris, qui a déjà ce lieu ici, vous comprenez ? Si ce lieu avait appartenu à l'État, la maison aurait été donnée à l'État. Vous voyez, il y a eu un concours de circonstances favorables qui fait que la ville de Paris aujourd'hui a le patrimoine le plus riche et le plus exceptionnel. Parce qu'il faut dire que la maison de Guernesey, qui s'appelle Hauteville House, est ouverte au public 6 mois par an et que son intérêt, je dirais absolument unique, c'est qu'elle a été entièrement décorée par Victor Hugo.
Tout à fait. Alors que là, nous sommes dans un appartement qui n'a pas été acquis par Victor Hugo. Quelles sont les pièces très importantes de cet appartement ?
Lorsque Victor Hugo part en exil, il y a la vente en 1852 du mobilier du proscrit. Donc, les meubles qui n'étaient pas partis à Guernesey sont vendus pour un grand nombre. Ceux qui sont partis à Guernesey reviennent avec lui en partie en 1870, au moment de la Commune, et donc nous les avons dans ce lieu. Mais il est vrai que nous ne pouvions, en 1903, au moment de l'inauguration, le musée a été fondé en 1902, mais ouvert, inauguré en 1903, en juin 1903, nous ne pouvions reconstituer l'appartement tel qu'il était du vivant de Victor Hugo. Donc, disons, assez rapidement, il a été question d'une reconstitution. Et plus récemment, il a été décidé de montrer, à travers les salles que nous parcourons aujourd'hui, d'évoquer les 3 grandes phases de la vie de Victor Hugo, telles qu'il les avait lui-même définies dans Choses vues, c'est-à-dire ces 3 grandes périodes, ces 3 grands actes de sa vie, avant l'exil, pendant l'exil, depuis l'exil. Dans cet appartement-ci, vous le voyez, 2 salles sont à peu près consacrées à chacune de ces périodes. Ici, donc, dans cette antichambre, nous évoquons les lieux de jeunesse de Victor Hugo, nous évoquons le voyage à Madrid qui l'a beaucoup marqué. Son père, dont vous avez ici le portrait par Julie Duvidal de Montferrier, était général. Il était général d'Empire de Napoléon Ier. Et à une époque, alors que Victor Hugo avait 9 ans, donc en 1810-1811, il était en garnison en Espagne, à Madrid. Et Victor Hugo fait le voyage et il reste même au Collège des Nobles à Madrid pendant quelques mois, avec sa mère, son frère, qui l'accompagne à ce moment-là. Donc vous avez d'un côté, vous avez l'évocation de ces lieux de jeunesse avec ce jardin des Feuillantines que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs un extrait du poème qui est très beau, qui est dans les rayons et les ombres, J'eus dans ma blonde enfance, hélas, trop éphémère, 3 mètres, un jardin, un vieux prêtre et ma mère. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs, au regard curieux. Et c'est un jardin, si vous voulez, qui va marquer l'imaginaire de Victor Hugo et dont on retrouve des similitudes, par exemple dans Les Misérables, dans le roman, et dont on retrouve également des similitudes à Guernesey, dans ce grand jardin, qu'il a également lui-même dessiné et conçu, planté. Vous avez donc son père, des portraits de son père en général, des portraits de son oncle. Vous avez des portraits en tenue 18e, donc des parents de sa maman, Sophie Trébuchet. Vous avez également des portraits de son épouse, de celle qui sera son épouse, Adèle Fouché. Vous l'avez ici au milieu de ce panneau. Sur la droite, il y a également son père, Paul Fouché. Donc, si vous voulez, ce sont des illustrations de sa propre famille, de la famille de son épouse, de celle qui deviendra son épouse, et des lieux, des divers lieux où il a habité alors qu'il était jeune, avec sa mère. Alors ensuite, nous arrivons, vous le voyez, dans un salon d'apparat qui s'appelle toujours le Salon Rouge. À l'époque où Victor Hugo y vivait, il y avait effectivement un Salon Rouge. Ce salon donnait sur la place, comme vous le voyez, mais à l'époque, à la différence d'aujourd'hui, il y avait des balcons qui donnaient sur cette place royale. Et donc là, cette salle est celle qui est chargée, je dirais, qui a la mission de restituer le plus fidèlement possible l'atmosphère dans laquelle baignait la famille Hugo lorsqu'elle habitait les lieux. Alors, certains portraits que vous voyez au mur se trouvaient déjà dans l'appartement. Ainsi, le portrait d'Adèle Fouché en robe du soir, d'Adèle Hugo, à l'époque elle est devenue Adèle Hugo, par Louis Boulanger, qui est un peintre très connu, un peintre romantique, qui était très proche de Victor Hugo, qui venait souvent en Place Royale et qui a illustré de nombreuses œuvres de Victor Hugo, des œuvres poétiques. Il a également fait des costumes pour le théâtre, des décors, etc. Vous avez également un très beau portrait représentant, qui était dans l'appartement à l'époque, représentant Victor Hugo et son fils François-Victor. Au milieu, vous avez cette très belle statue de David d'Angers, représentant un buste donc néoclassique de Victor Hugo. Victor Hugo était très attaché à cette sculpture. Il l'aimait beaucoup et elle trônait dans le salon à la fin des années 30 lorsque David d'Angers l'offre à Hugo. Elle trouve aussitôt une place dans le Salon Rouge et nous l'avons conservée aujourd'hui. Et vous savez, c'est amusant parce que vers la fin de sa vie, Auguste Rodin, qui n'était pas n'importe quel sculpteur, mais qui à l'époque était jeune et moins connu qu'il ne l'a été par la suite, se trouve amené, disons, à faire le buste de Victor Hugo. Et Victor Hugo, à 80 ans passé, il est fatigué, Juliette est déjà malade. Et il vient de se prêter à d'interminables séances de pose pour un sculpteur qui s'appelait Vilain, le mal nommé. Et Victor Hugo n'avait pas du tout aimé ce buste. Et lorsque, bon, on force un peu, Juliette aussi le conseille, mais quand même, Rodin. Et Victor Hugo dit, mais enfin, mais que croit ce jeune homme? Mais pense-t-il pouvoir faire mieux que mon vieil ami David d'Angers? Il était effectivement très attaché. Alors, dans ce salon, vous voyez aussi des miroirs de Venise, des lustres de Murano, qui étaient à l'époque de la Place Royale. Vous avez également des consoles en bois doré. Et vous avez des peintures qui sont très intéressantes. Alors, vous avez d'une part celle qui représente Léopoldine. Léopoldine, qui est la fille aînée de Victor Hugo, qui se marie à 16 ans avec Charles Vacry et qui meurt quelques mois après, noyée dans la Seine alors qu'elle fait une petite promenade en barque. Et nous avons là un très beau portrait de Léopoldine au livre d'heures par Auguste Chatillon. C'est un portrait donc de l'époque où la famille vivait ici et qui se trouvait dans le salon, sitôt après avoir été réalisé. Vous avez également une évocation de la communion de Léopoldine à Fourqueux. Ce sont des œuvres qui rappellent, si vous voulez, l'amour que Victor Hugo vouait à ses enfants en général. C'était un très bon père, c'était un mari qui a eu ses infidélités, comme nous le savons, mais qui quand même a eu la fidélité du mariage et n'a jamais divorcé d'Adèle. Il l'a toujours estimée, il a toujours correspondu avec elle, il a toujours été respectueux de sa personne et de ses idées. Mais bon, ne l'oublions pas, il y a eu à partir de 1833 dans sa vie un grand amour, une très jolie comédienne qui interprétait le rôle de la princesse Negroni dans Lucrèce Borgia, Juliette Drouet. Et vous avez ici, elle entre dans sa vie, donc en 1833, elle entre dans sa vie pour ne plus jamais en sortir. Ça va donner lieu à 50 ans d'amour, c'est absolument admirable. Et 20 000 lettres échangées. Beaucoup émanant de Juliette, elle lui écrivait parfois 3 fois par jour, elle le suit en exil, elle l'accompagne partout. Elle le sauve, elle lui fournit un passeport sous un faux nom pour quitter la France après l'état de siège. Elle était également, c'est sûr qu'elle était sa maîtresse, elle était son adorée. « Mon cher grand petit homme », dit-elle parfois dans ses lettres. Mais elle était celle qui l'a soutenue dans tous les moments. Elle était sa première lectrice lorsqu'il écrivait. Elle était sa copiste, elle recopiait. À l'époque, il n'y avait pas les machines à écrire et les ordinateurs, donc elle recopiait les manuscrits de Victor Hugo. Elle donnait son opinion, souvent. Elle s'enflammait pour l'œuvre graphique de Victor Hugo. Lorsqu'en 1850, il renonce au rituel du voyage estival qu'ils ont instauré peu de temps après leur rencontre en 1937. Ils commencent à partir 2 mois chaque été. Alors là, c'est absolument merveilleux pour Juliette parce qu'elle n'a jamais vécu, elle ne vivra jamais avec Victor Hugo. Mais pendant ces 2 mois, il est tout à elle. Alors elle, chaque fois qu'ils sont sur le point de partir, qu'il annonce un voyage, elle s'écrie « Ah, quel bonheur !» Et on le lit dans ses lettres et c'est très touchant, c'est très merveilleux. Et donc en 1950, Paris est dans la tourmente, le prince Louis-Napoléon Bonaparte est sur les rails de l'Empire, ce que Victor Hugo n'attendait pas du tout parce qu'il a facilité le retour d'exil, pensant qu'il allait être président de la République et pas empereur. Et donc ça va mal. Et entre les séances de la Chambre, c'est-à-dire entre le mois d'août et le mois de novembre, il installe un atelier d'artiste, de peintre, dans la salle à manger de Juliette Drouet. Il va créer là quelques chefs-d'œuvre absolus. On peut en reparler. Et nous avons des témoignages très impressionnants de cette période. Et là, dans les lettres de Juliette, on constate cet engouement qu'elle porte à l'œuvre graphique de Victor Hugo.
Donc là, nous arrivons à une pièce très, très particulière. Est-ce que vous pourriez nous commenter cette pièce ?
Il faut dire que c'est un peu inattendu de voir Place des Vosges, ce salon chinois. On peut s'interroger, on cesse de le faire lorsqu'on sait que Victor Hugo avait tous les talents, mais avait aussi celui de décorateur d'intérieur. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il avait décoré sa propre maison à Guernesey, Hauteville House. Je vous disais aussi que Juliette Drouet l'avait suivi en exil. Donc, lorsqu'il est à Guernesey, à Hauteville House, elle est non loin de là, à Hauteville-Ferry. Et après qu'il ait réalisé le décor de sa propre maison, il se penche sur la maison de Juliette. Il avait déjà d'ailleurs donné quelques éléments de décor à la maison qu'elle occupait avant Hauteville-Ferry, elle a fallu. Mais bon, restons, nous sommes ici donc en fait dans l'univers de l'exil, je vous ai dit 2 salles avant l'exil. Hein. Ici, nous abordons les 2 salles de l'exil et ce salon chinois est celui que Victor Hugo conçoit pour sa maîtresse à Guernesey, à Hauteville-Ferry. Alors c'est très impressionnant. Vous retrouvez bien sûr le goût très fortement ancré dans l'univers décoratif de Victor Hugo pour l'art extrême-oriental. Vous retrouvez le goût pour les faïences, pour les porcelaines, pour les ivoires. Vous retrouvez, je dirais aussi, le goût du « je », le goût du « moi », l'ego de Victor Hugo, qui dessine, conçoit pour le centre d'un panneau cette cheminée dont le décor central eh bien, dessine la première lettre de son nom, un H. Alors, vous voyez aussi que de part et d'autre de cette, des éléments, des courbes et du dessin de ce H, vous avez, au cas où on n'aurait pas tout à fait compris, la signature du poète VH. Alors, vous l'avez de façon très évidente, très imposante. Elle est aussi, pour moi, liée à l'idée qu'on a de la cheminée, si vous voulez. Surtout à cette époque, on se réunit autour du feu et il règne, si vous voulez, sur cette intimité. Il règne sur ce groupe. Il est celui dont on se rapproche et dont on va écouter la pensée, la parole, au cours de soirées de lecture, etc. Il y a également, vous le voyez, par exemple, le V et le H qui apparaissent de façon plus subtile sur ce panneau où vous voyez un petit chinois qui fait l'homme droit sur une chaise et vous avez l'ombre portée contre le mur des jambes du chinois et des pieds de la chaise qui dessine le V et qui dessine le H. Vous avez un peu plus haut sur la droite un ange qui joue de la trompette et dans la trompette, vous voyez le dessin du J et du D. Nous sommes chez Juliette Drouet, il y a une évocation de Juliette Drouet. Alors, il faut vous dire aussi que ce décor est totalement inventé, qu'il n'a absolument rien d'historique, que les panneaux sortent tout droit de l'imaginaire prolifique, je dirais, de Victor Hugo, qui fait des dessins, disons, à tendance, à caractère extrême-oriental. Mais lorsque vous visitez ce salon avec des spécialistes de l'art du décor chinois à l'époque, ils sont très amusés, vous voyez, parce qu'à aucun moment, ça ne renvoie à quelque chose d'historique, voyez, d'authentique sur le plan du décor chinois.
Est-ce que Victor Hugo connaissait l'art d'Extrême-Orient ?
Alors, celui qui, en 1829, a écrit Les Orientales, comme vous savez, n'est jamais allé en Orient. Mais c'était aussi dans l'air du temps. C'était aussi dans l'air du temps. Et vous savez qu'il avait dit « Je veux être Chateaubriand, Orient, etc. » Ce sont ces auteurs-là qui ont commencé à parler de l'Extrême-Orient et qui ont généré... Il y a eu les premiers voyages en Extrême-Orient. Il y a eu Gautier, par exemple, qui est parti, lui, en Égypte. Ce n'est pas l'Extrême-Orient, mais c'est le Proche-Orient. Et avec Maxime Lecamp, il y a eu ses premières photos. Si vous voulez, l'Extrême-Orient et le Moyen-Âge sont très ancrés dans la sensibilité romantique. C'est le lieu de l'évasion, c'est le lieu du rêve, c'est le lieu dont on peut parler de façon romancée. À partir de là, on a besoin d'y aller, vous voyez. Il y a les premières expositions qui ont lieu à l'époque, d'estampes japonaises, de choses comme ça. Alors, le goût est cultivé. Il est romantique et beaucoup de grands peintres, dont Boulanger, qu'on a cité tout à l'heure, qui était proche de Victor Hugo, et qui d'ailleurs, lorsque Victor Hugo publie Les Orientales, en 29, aussitôt après, illustre d'un grand tableau que nous avons ici, le poème « Le feu du ciel ». Il réalise un grand tableau sur ce thème. Donc, vous voyez, tous les peintres romantiques sont attirés, sont séduits. Il y a les musiciens aussi. Et en fait, il y a les couleurs de l'Orient qui fascinent beaucoup. Et voyez ici, on se retrouve dans un décor de rouge, de dorure, de vert éclatant. Et ça, ce sont les couleurs de l'Orient. L'autre goût qu'exprimaient, que manifestaient les romantiques, est celui du Moyen-Âge. Et là, c'est l'inverse, en fait. En fait, on a presque une relation d'ombre et de lumière, voyez, entre ces deux penchants. La lumière, c'est l'Orient, vous voyez. Le soleil se lève à l'est. Voyez, c'est la lumière, c'est le soleil. Et le Moyen-Âge, c'est le temps passé, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Et à Hauteville-Haas, d'ailleurs, où le décor médiéval est très fort, on a l'impression d'entrer dans un lieu de ténèbres, d'obscurité. Voyez, c'est très particulier. Mais à Hauteville-Haas, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Victor Hugo a fait construire tout en haut de la maison une pièce, une salle de travail qui est devenue très, très connue, très célèbre, je dirais même, le lookout, tout le monde connaît, enfin ceux qui s'intéressent à Victor Hugo, le lookout qu'il conçoit et qui est en fait le premier Crystal Palace. Vous voyez, même là, il est en avance sur l'architecture de verre et d'acier qui va après s'imposer en Angleterre. C'est très extraordinaire, vous savez, Victor Hugo. Et donc, dans cette salle, dans cette cage de verre, on dit, mais je pense que c'est vrai parce qu'il y a des tablettes qui le rappellent, il écrit debout face à la mer. Et si vous voulez, comme si lui se nourrissait du cosmos, voyez, trouver sa substance dans la lumière, dans la chaleur du soleil, etc. Salle à manger qu'il conçoit également pour Juliette Drouet, pour Hauteville-Ferry.
Dans un style très différent.
Voilà, c'est un style très différent, vous le voyez tout de suite. Là, nous plongeons dans le Moyen-Âge et nous sommes dans une atmosphère beaucoup plus sombre. Alors, nous rappelons quand même, peut-être au passage, que Victor Hugo s'était fait le défenseur des monuments historiques et que lorsqu'il écrit Notre-Dame de Paris, il écrit aussi pour ramener l'attention du lecteur sur l'architecture médiévale. Voyez. Donc ce goût est profondément ancré en lui. Mais ce qui est extraordinaire dans cette salle à manger que nous présentons ici, et dont on retrouve d'ailleurs la démarche à Hauteville-Haas, c'est que tous ces meubles que vous voyez sont des meubles composites, entièrement imaginé par Victor Hugo. Alors vous voyez, vous avez une table au centre, la table de la salle à manger. Vous pouvez penser que c'est une table tout à fait traditionnelle, un peu grande, avec des coins coupés. Si vous regardez de plus près, vous vous apercevez que sur un des côtés de la table, il y a des charnières. Pourquoi y a-t-il des charnières? Parce qu'en fait, c'était une porte. Alors voilà que Victor Hugo a acheté sans doute une grande armoire, l'a démontée, a gardé la porte et s'est dit voilà, un beau plateau de table.
Est-ce que Victor Hugo avait de l'humour?
Oh, sans doute. Il avait toutes les qualités, donc pourquoi pas celle-là? Et il était très intelligent. Et je pense que l'humour quand même n'est pas sans intelligence. Alors là, voyez, dans cette pièce, vous avez également une suspension, vous avez un lustre en bois qui apparaît tout à fait classique, a priori. Mais non, en fait, les bougeoirs Mais les bougeoirs, mais ce sont des bobines de fil. Ah, voilà. Voilà que Victor Hugo a récupéré des bobines de fil pour faire des bougeoirs. Et ce banc, il est tout à fait médiéval. Sauf qu'à l'époque, bien sûr, les accoudoirs n'étaient pas arqués comme ils le sont. Donc c'est encore, voyez, une fantaisie. C'est une fantaisie médiévale. Victor Hugo courait les brocantes, déjà à Paris, ensuite à Guernesey, toujours flanqué de sa charmante Juliette. Adèle lui disait « Tu n'as aucun goût pour le mobilier, tu achètes des éléments. » Au moment de la vente de 1852, elle lui faisait le reproche de ne pas avoir eu suffisamment d'exigence dans le choix du mobilier. Alors que Juliette était toujours en admiration. Alors voyez ces armoires, ces bahuts, ce que vous voyez ici. Alors c'est complètement repensé. Il court les brocantes, alors il réunit des coffres, des bahuts, des tables, des miroirs de sorcières, vous en avez un là. Et puis alors, il démantibule tout ça, il fait des dessins, vous en voyez deux au mur, et il les donne à son ébéniste, Maugère, et Maugère réalise, avec les éléments de mobilier désignés par Victor Hugo, réalise cet ameublement pour lui. Alors, ponctuellement, Victor Hugo intervient. Il va faire une peinture. Dans le salon chinois, par exemple, vous avez des panneaux qui sont retravaillés à la peinture par Hugo. Ou alors, il va un peu sculpter avec un ciseau à bois, un élément du décor. Mais disons qu'il imagine les meubles plus qu'il les réalise. Ici, nous avons un petit cabinet. Donc à l'époque, je vous rappelle, les salles ne s'articulaient pas tout à fait de la même façon. Donc là, nous avons traversé le cabinet de travail de Victor Hugo, où le plus souvent, nous montrons des photographies de la période de l'exil. Donc je vous ai dit qu'il avait créé cet atelier de photographie, l'atelier de Jersey. Donc ce sont les salles consacrées à l'exil. Et avec cette salle-ci, nous revenons en France en 1870, et nous évoquons, vous le voyez, avec le canapé, les fauteuils, le salon que Victor Hugo occupait, rue de Clichy, avant de s'installer avenue des Loups. Donc ici, c'est l'atmosphère de ce salon de la rue de Clichy qui est reconstituée. Et vous avez notamment le très beau portrait qui est entré dans l'histoire de Victor Hugo, peint par Léon Bonnat. C'est le portrait du grand-père, celui qui écrit « L'art d'être grand-père ». C'est l'image de ce patriarche rentré d'exil, reconnu, célébré, adulé, fêté. 20 ans d'exil quand même, ça mérite le plus grand des respects. Donc vous avez là ce magnifique tableau. Vous avez également des miroirs qui se trouvaient dans l'appartement de Victor Hugo, rue de Clichy. Vous avez également un mobilier 18e. Il avait cet homme qui était parti au nom d'un idéal démocratique, dans une volonté de combat social, voyez. Il avait quand même le goût d'une certaine opulence. Et le mobilier qui nous reste de lui dans cet appartement le traduit. Et là, nous avons une salle qui est fidèlement cette fois reconstituée dans le détail. C'est celle dans laquelle Victor Hugo s'est éteint en mai 1885. Et vous y retrouvez donc le mobilier, à nouveau aux trois quarts médiéval, qui l'entourait lorsqu'il est mort, avenue des Loups, qui, vous le savez, était devenue pour une partie avenue Victor Hugo pour le 80e anniversaire de l'écrivain, et qui, à la mort de l'écrivain, est devenue, jusqu'en bas de l'avenue, après le rond-point de la place Victor Hugo, l'avenue Victor Hugo. Donc, il habite avenue des Loups et meurt en mai 85. Cette salle traduit très très fidèlement cette atmosphère, et elle nous a été donnée, tous les éléments de mobilier, la tapisserie au plafond, tout ça se trouvait dans la chambre, j'insiste, là c'est une pièce qui est extrêmement fidèle à l'univers de Victor Hugo, et tous les éléments de mobilier ont été offerts par les petits-enfants de Victor Hugo, Georges et Jeanne, que vous voyez avec leur grand-père dans la salle que nous appelons la salle du retour d'exil. Donc Georges et Jeanne offrent pour l'inauguration du musée tout le mobilier que vous voyez ici.
C'était Danielle Molinari, directrice de la Maison Victor Hugo à Paris, qui nous emmenait dans la demeure de l'académicien qui y vécut de 1832 à 1848.